Lionel, bonjour.
Bonjour.
On va parler, alors j'allais dire, pour faire un mauvais jeu de mots, tout coûte cher, de l'expansion de l'univers, de l'inflation de l'univers, en fait, on pourrait dire aussi.
Ah, mais figurez-vous qu'on parlera carrément d'inflation.
D'inflation.
C'est une petite partie de l'expansion de l'univers, de l'inflation. Alors, expansion de l'univers, plus généralement la science, hein, et l'astronomie en particulier, c'est, en fait, c'est une interaction entre différents personnages. On en a fait déjà des émissions. Il y a l'astronome qui observe le ciel, qui n'est pas forcément n'est pas obligé de comprendre tout ce qu'il observe. Lui, c'est l'observateur. Il y a l'astrophysicien derrière qui élabore des théories, et il y a le mathématicien qui doit inventer les maths nécessaires pour que la théorie fonctionne, et puis surtout pour que ça colle aux observations. Et à partir de cette théorie-là, finalement, on fait des prédictions qui doivent à nouveau être confirmées par les astronomes, par de nouvelles observations, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la science avance. Dans cette histoire, il y a un quatrième acteur dont on parle peu, et pourtant c'est le plus important. C'est pourtant le plus incompétent des quatre,
oui.
Mais c'est le plus important. Et finalement, c'est, alors j'allais dire l'opinion publique. Pas que, c'est aussi l'idéologie du moment. Et finalement, c'est ça qui fait surtout freiner les progrès de la science. Rappelez-vous, pensez, passer du système géocentrique, la Terre au centre du système solaire, au système héliocentrique, qui expliquait beaucoup mieux les choses.
On en a brûlé pour moins que ça.
Mais exactement. Donc, c'est toujours pas facile de changer les mentalités, en fait. On peut faire la même chose avec la gravitation newtonienne, passer à la relativité générale d'Einstein. Ça a été un immense saut dans la pensée et dans l'évolution des pensées. Eh ben, peut-être qu'on en est encore là aujourd'hui. Avec l'expansion de l'univers. Et on va voir, bon, alors d'où vient cette expansion de l'univers, comment l'observateur et puis les théoriciens ont expliqué ce que l'on observait. Mais on n'a pas toutes les explications. Loin de là, on a quand même des grosses zones d'ombre et avec des hypothèses qui peuvent paraître un peu bizarres, mais qu'il faudra peut-être accepter.
Bien, on se retrouve dans quelques instants. Lionel, vous allez donc nous parler de l'expansion de l'univers. Et alors, je suis étonné que vous, dans l'introduction, vous nous avez parlé de l'idéologie du moment et de l'opinion publique. Comme si dans la science, même si on peut comprendre que les gens aient leur mot à dire, comme si dans la science, c'était pas simplement une expérimentation et une constatation scientifique.
Mais bien souvent, ces constatations scientifiques, ou en tout cas les idées que l'on amène pour expliquer ce qu'on observe, ne sont pas toujours très très bien acceptées. Il y a des théories qui paraissent plus farfelues que d'autres, alors que peut-être ce sont les bonnes hypothèses. Donc il faut étayer en fait ces idées-là par de nouvelles observations. D'où vient en fait cette idée d'expansion de l'univers? Eh bien, ça vient du siècle dernier, hein, début 20e siècle. Il y a plusieurs acteurs, on en a fait des émissions tout récemment, donc Henrietta Leavitt, qui étudie des étoiles massives, des céphéides, donc des étoiles variables, grâce auxquelles simplement le cycle de variation de luminosité permet de déterminer la distance des étoiles. Ça a donné déjà un élan dans la cosmologie, et ça a été le début de la cosmologie moderne avec de nouvelles mesures de distance dans l'univers. Et la taille de l'univers, d'un seul coup, s'est trouvée augmentée d'un facteur considérable. Donc Henrietta Leavitt, grâce à ses céphéides, Vestoslifères, lui, c'est le découvreur des spectres des galaxies. Avec ces deux notions-là, Edwin Hubble a réussi finalement à décrypter l'univers. On en est à peu près avec, c'est pareil, c'est Champollion et la pierre de Rosette.
Oui, c'est ça.
C'est
oui,
exactement
c'est
pareil. On a des indices, on a des traces de quelque chose, mais il faut savoir les décrypter. Et bien, Edwin Hubble, 1923, va découvrir des céphéides dans la galaxie d'Andromède, galaxie M31. 1929... Il va élaborer sa loi d'expansion de l'univers. C'est plus on observe une galaxie lointaine, plus elle s'éloigne rapidement. Et donc cette mesure de vitesse d'éloignement des galaxies, ça se permettra d'avoir une mesure de distance. Et l'univers d'un seul coup prend de l'ampleur. Donc c'est la loi de Hubble, on est en 1929. 1931, un nouvel acteur, c'est Georges Lemaître. Mais si tout le monde s'enfuit actuellement, c'est que si on remonte dans le passé, c'est que tout le monde était regroupé au départ. Et lui, il avance l'hypothèse de l'atome primitif. C'est pas accepté par tout le monde non plus. Mais pourtant, si tout le monde s'éloigne et on remonte le film à l'envers, c'est que tout le monde était plus rapproché dans le passé.
Ah oui.
Mais voilà, c'est cette nouvelle notion-là ne plaît pas à tout le monde. Alors, à une bonne partie de la communauté scientifique de l'époque. Il parlait d'atome primitif. 1948, on prédit, grâce à cet atome primitif-là, cette notion-là, que l'univers était beaucoup plus dense à une époque dans le passé, c'est qu'on doit trouver des traces de cette densité. de cette dure surdensité de l'univers. On prédit l'existence du fond diffus cosmologique. C'est une prédiction. À partir des théories, on prédit ça. C'est tout. Après, il faut se débrouiller pour l'observer.
Mais on l'a observé.
Vient par la suite. Donc on en est en 1948, prédiction de ce fond diffus cosmologique, lorsque l'univers est devenu, on va dire, suffisamment froid pour libérer les photons. En fait, c'est ça la théorie sous-jacente. 1949, là on a les détracteurs de la théorie de l'atome primitif, et notamment Fred Hoyle, dans une interview à la BBC en 1949, alors lui il s'en moque mais carrément, en disant mais pourquoi pas, on ne parlerait pas, pourquoi pas du Big Bang. Donc les adversaires ont dit, oh bah... Pactole, bingo, on garde. C'est joli, merci pour ce mot-là. Et Big Bang est resté. Donc on parle plus d'atomes primitifs, on parle de Big Bang. Donc il y a les pros et les contre Big Bang. Bon bah c'est les pros qui ont gagné parce que les observations finalement n'ont fait qu'on confirmer cette idée d'expansion de l'univers. Donc Big Bang on garde. 1964, c'est là qu'on découvre le fond diffus cosmologique qui avait été prévu en 1948. Et donc, ça a été découvert par Arno Penzias et Robert Wilson. Ils ont eu le prix Nobel en 1978 pour cette découverte-là. Et l'un des deux, Arno Penzias, nous a quittés récemment, le 22 janvier 2024. Il est décédé. Et donc, ce prix Nobel-là, pour la découverte du fond diffus cosmologique. 1975. Toujours avec cette théorie du Big Bang, il y a un départ. Donc, juste après le Big Bang, pour que l'univers y ait... puisse atteindre la taille qu'on lui connaît actuellement, il faut qu'au départ, il y ait une inflation. Alors on appelle vraiment ça une inflation. C'est pas une expansion, on va dire, régulière, gentille, pas trop rapide.
C'est par à coup,
alors. C'est d'un seul coup, il y a eu une inflation. Alors quand je dis une inflation, là, on va partir dans des nombres gigantesques. C'est 10 puissance 26 fois le volume dans un temps 10 puissance moins 33 secondes. Donc dit comme ça, ça veut pas dire grand-chose. Alors je vais dire en des termes un peu plus civilisés.
Que je comprenne.
Un peu plus civilisé. 10 puissance 26, c'est 100 millions de milliards de milliards de fois plus grand. Oui. Ça fait trop de millions et de milliards dans l'histoire, hein, c'est pas plus clair. Mais vous imaginez bien...
Vous avez vérifié dans les calculs ?
Dans les calculs, oui. Si ça avait été 10 puissance 27, 10 puissance 27, c'est 3 fois 9. Et donc, dans ces cas-là, j'aurais dit 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards de fois plus grand. Donc 3 fois milliards, parce qu'il y a 3 fois 9. Donc 3 fois milliards. Déjà, 1 milliard, c'est énorme.
Ben oui.
Si je compte... toutes les secondes, 1, 2, 3. Pour compter 1 milliard de secondes sans jamais prendre de vacances ni dormir, il faudrait plus de 32 ans. Voilà ce que représente 1 milliard. 32 ans en secondes. C'est 1 milliard de secondes. Mais 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards. Vous imaginez un petit peu le temps que ça prend. Donc en fait, c'est un nombre qui est gigantesque. Donc l'univers, d'un seul coup, il a enflé. C'est l'inflation. Et dans un temps, mais... ridiculement court. 10 puissance moins 33 secondes. Là, vous mettez 0, 0,000000. Il y a un 1 qui arrive à la 33e position derrière la décimale. Derrière la virgule. Donc, c'est un temps relativement court. Enfin, relativement, extrêmement court. Il a pris 100 millions, 2 milliards, 2 milliards de fois son volume. Donc là, on parle d'inflation.
Bah oui, c'est énorme.
Voilà. Bon, c'est
énorme.
Inimaginable.
Oui, c'est, pour l'esprit humain, c'est difficilement imaginable. Bien sûr.
Ça, c'est une, on va dire, c'est une découverte, on va dire, c'est une théorie. On doit en trouver les traces dans ce fameux fond diffus cosmologique. Des traces de cette inflation, cet instant initial qui a donné de l'élan à notre univers pour l'expansion par la suite. 1990, on commence à envoyer des satellites dans l'espace pour étudier ce fond diffus cosmologique qu'on a découvert. Donc en 1964, le satellite Kobe, le satellite WMAP en 2001, le satellite Planck en 2013. Avec Planck, alors là, on a étudié le fond diffus cosmologique, mais franchement à la perfection. Et depuis, on essaye d'expliquer ce que l'on voit et de pouvoir expliquer toutes les structures finalement de l'univers à partir de tout ce qu'on a découvert dans ce fond diffus cosmologique. Qu'est-ce qu'on y a vu? Des inhomogénéités. C'est-à-dire que c'est pas ce fond diffus cosmologique, c'est pas un univers de manière homogène avec la même température partout. Il y a des toutes petites fluctuations de température. Et ces toutes petites fluctuations de température dénotent des petites variations dans la densité de masse. Donc il y a des endroits où il y a un petit peu plus de matière que d'autres. Et ces petites, on va dire, ces petits grumeaux à l'origine de l'univers ont donné naissance à toutes les structures que l'on connaît. Les galaxies, les étoiles, les amas de galaxies, etc.
Ouais.
Donc à partir de ce fond diffus cosmologique, on peut essayer d'étudier la cosmologie, donc depuis le début vers nos jours. Et à partir de la Terre, on peut essayer avec nos instruments de remonter le plus loin possible dans le passé et de remonter vers le fond diffus cosmologique. Donc on a deux sources d'études possibles, depuis le fond diffus cosmologique vers chez nous, pour expliquer les galaxies, les amas de galaxies, ou alors de chez nous, on essaie de remonter le plus loin possible pour remonter dans le temps et observer toutes ces structures, mais au moment de leur naissance.
Donc on a, oui, on a c'est deux une photo, façons d'étudier. C'est un instantané de l'époque, en fait, qu'on
Absolument.
Observe.
Absolument.
C'est pas la réalité, c'est pas en train de se passer, c'est un instantané d'une époque.
Exactement. Donc, avec ces deux façons-là d'étudier l'univers, on va essayer d'expliquer tous ces instants de l'univers, depuis le Big Bang, cette fameuse inflation, et ensuite cette expansion. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre encore dans toutes ces études-là. Et notamment, par exemple, la vitesse d'expansion de l'univers. Alors la vitesse d'expansion de l'univers, elle dépend d'une petite constante, parce que lorsque Hubble a élaboré cette fameuse loi de Hubble, qui permet d'étudier la distance en fonction de la vitesse des galaxies qu'on observe, il y a une petite constante. Alors que l'on nomme la constante de Hubble, quand même,
oui,
en son
hommage, bien sûr.
À l'époque, la constante de Hubble valait 100. Alors c'est pas une constante, hein. C'est-à-dire c'est un nombre qui a quand même une unité. C'est pas juste un nombre comme ça qui pourrait être juste une constante. C'est des kilomètres par seconde par mégaparsec. Bon, là encore, je sens qu'il y a des problèmes dans mon propos.
Oui.
Mégaparsec, c'est une mesure de distance, simplement. Ça fait à peu près 3 millions d'années-lumière. Donc tous les 3 millions d'années-lumière, quand je regarde dans le passé, tous les 3 millions d'années-lumière, d'un seul coup, mes galaxies, elles vont 100 kilomètres par seconde plus vite. Donc il suffit que je mesure finalement cette vitesse de fuite d'une galaxie. Si je l'observe qui s'éloigne à 100 km par seconde, je dis « elle est à 3 millions d'années-lumière ». Si je l'observe à 200 km par seconde, elle est à 6 millions d'années-lumière. Donc finalement, c'est ça. Et
je suis assez estomaqué de voir que des scientifiques ont pu déterminer des constantes comme ça. C'est extraordinaire.
Mais en fonction des mesures, finalement.
Oui, bien sûr.
On fait des mesures de galaxies qui sont à différentes vitesses, et donc on arrive par d'autres moyens à mesurer leur distance. Finalement, ça permet d'élaborer une loi qui pour le coup est simple, parce que c'est une loi linéaire. Ça varie à la puissance 1 des paramètres que l'on observe. Voilà, j'observe quelque chose qui est à, je sais pas, 1000 km par seconde, une galaxie qui s'enfuit de la nôtre à 1000 km par seconde, donc ça fait 32 millions d'années-lumière.
D'accord.
Donc c'est une façon, cette loi-là, c'est une façon de mesurer les distances dans l'univers. Mais il y a un petit problème, c'est ce fameux paramètre constante de Hubble. Est-ce que ça vaut vraiment 100? Et donc, est-ce que la vitesse d'expansion de l'univers est justement égale à 100 km par seconde par mégaparsec? Et donc, il faut affiner cette valeur-là pour mieux comprendre notre univers quand même, puisque c'est sa vitesse d'expansion qu'on est en train de mesurer là. Et cette vitesse d'expansion-là dépend à la limite de son volume, mais surtout, quand on remonte dans le passé, c'est son âge qui en dépend. Dire si c'est beaucoup plus lent que ce qu'on pensait, mais c'est qu'il est beaucoup plus âgé, parce qu'il va moins vite pour atteindre cette taille-là. Et si cette constante-là est beaucoup plus importante, mais c'est que le passé est beaucoup plus récent qu'on ne le pense. Donc, cette détermination de la constante de Hubble nous donne accès à l'âge de l'univers, à l'origine du Big Bang. Donc, c'est super important. Prenons un petit exemple. On a certains astronomes qui, à partir des galaxies, des supernovas, que l'on observe très 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 loin dans les galaxies les plus éloignées, donc à partir d'observations terrestres, du coup, pour le coup, on part de chez nous. Et on essaie de remonter loin dans le passé. La nouvelle valeur de la constante de Hubble est tombée à 74 km par seconde par mégaparsec.
Ça veut dire...
Donc 200, c'est devenu 74. L'univers, il va moins vite que ce qu'on pensait. Donc il est un peu plus âgé que ce qu'on pensait à l'époque de Edwin Hubble.
Donc
évidemment, toutes ces mesures-là,
on
est toujours dans les 13,8 milliards d'années. Donc avec évidemment, avec ces mesures, on peut pas dire c'est 74 km par seconde pile.
Oui.
Non, on a quand même une marge d'erreur. On tient compte de toutes les, on va dire, les marges d'erreur possibles, les incertitudes dans certaines mesures. Donc c'est avec une certaine marge d'erreur. On va dire, en gros, c'est 74 plus ou moins quelque chose, mais c'est pas loin de 74. Et il y a d'autres théoriciens, d'autres astronomes, qui mesurent à partir de ce que l'on observe du fond diffus cosmologique, c'est-à-dire de l'autre côté. Et à partir de l'autre côté, on tombe sur une autre valeur, 67. Ça veut dire que c'est un petit peu plus lent. Donc pour eux, l'univers serait un petit peu plus âgé. Et là, dit comme ça, on se dirait, tout va bien à une condition, c'est que la marge d'erreur autour de 74 et la marge d'erreur autour du 67 se recoupe. Et à ce moment-là, on pourrait se dire, il y en a qui mesurent 67 avec une certaine marge d'erreur, d'autres 74 avec une autre marge d'erreur, finalement, c'est l'intersection des deux qui nous donnera une valeur encore plus précise.
Valeur moyenne.
Absolument. Et là, problème, c'est que la marge d'erreur autour du 74 et la marge d'erreur autour du 67 ne se recoupent pas.
C'est-à-dire?
Elles
comment
sont
ça
incompatibles.
Ah oui?
Imaginez, je vous dis, il y en a, ils disent c'est 74, mais c'est, en fait, c'est, les vraies valeurs, c'est entre 73 et 75. Mmh. Voilà, on est sûr de nous, c'est pas autre chose. Mmh. Et ceux qui mesurent 67, ils disent c'est 67, mais entre 66 et 68. Donc au maximum, c'est 68. Et les autres de l'autre côté, ils disent non, mais au minimum, c'est 73. Il y a un problème.
Donc ça se recoupe pas.
Ça se recoupe pas du tout. Et pourtant, nos mesures sont précises. Nos marges d'erreur ne se recoupent pas. Donc on voit bien que là, il y a un problème. Il y a tellement un problème qu'à cause de ces résultats incompatibles, on appelle ça la tension de Hubble. Donc là, on a mis le doigt sur quelque chose en fonction de la nature de la mesure, du protocole que l'on utilise pour essayer de déterminer précisément la constante de Hubble. On tombe sur des résultats qui ne sont pas compatibles. Donc là, il y a un problème. Est-ce que on a des biais de mesure, des paramètres dont on ne tient pas compte, dont on ignore l'existence, hein, à la limite, hein. Donc, avec ce que l'on connaît, on tombe sur des valeurs qui ne fonctionnent pas entre elles, donc on a un problème. Donc c'est ça qui va faire évoluer la science, c'est que là, on a un gros souci. Ne serait-ce que dans la vitesse d'expansion de l'univers, il y a un gros problème. Et ça, ça nous donne un problème sur l'âge de l'univers. Il faudra bien le faire remonter dans le temps, et donc les deux âges ne sont pas compatibles entre eux. Donc là, c'est tout le modèle qui est à revoir. Mais on va voir qu'il y a peut-être d'autres problèmes aussi, parce que l'inflation, on l'a toujours pas expliqué non plus. Et donc, avec nos futurs télescopes, il y a la limite, avec le James Webb, notre nouveau télescope, on fait d'autres mesures. Et donc, on va voir ce qu'on a réussi à mesurer d'autres, d'étranges. Et puis des hypothèses qu'on pourrait être amené à formuler, qu'il faudra peut-être accepter, et non pas refuser parce qu'on n'a pas envie que ce soit comme ça.
Eh bien, on voit ça dans quelques instants. Alors Lionel, on va aborder les problématiques, les petits soucis, les incohérences de la théorie de l'expansion de l'univers.
Alors les petits soucis, premier petit souci, c'est la vitesse, cette fameuse vitesse d'expansion de l'univers. Bon, déjà on n'est pas tellement d'accord sur la véritable vitesse en fonction des expériences que l'on mène pour la déterminer. Deuxième petit problème, dans notre théorie de l'inflation qui donne de l'élan à cette expansion-là, dans tous les cas, une fois que l'expansion est en route, elle tente à ralentir. Il y a plus rien qui fait que ça donne de l'énergie et donc ça ralentit. Donc dans tous nos premiers modèles, on en était à discuter à est-ce que cette vitesse-là va diminuer, comme une courbe logarithmique qui ne ferait que augmenter, mais sans jamais tomber à zéro. Est-ce que, par hasard, ça deviendrait un univers stationnaire? Ça s'arrête. Ou est-ce que, à force de diminuer, ça finira par par rétrécir l'univers. Et cette inflation, finalement, on va avoir une vitesse, voilà, exactement. Les galaxies continuent de s'éloigner pour l'instant, mais il y a un jour où la vitesse aura tellement diminué qu'elle va carrément s'inverser, elles vont à nouveau se rapprocher les unes des autres, vers un Big Crunch. On en était là jusqu'en 1998. 1998, on est toujours en train d'essayer d'affiner nos modèles sur l'expansion de l'univers, et on trouve des supernovas, mais alors très 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 loin dans l'univers, donc dans des galaxies très 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 âgées. Et ces supernovas nous montrent que, loin de diminuer, ça s'accélère. Bon, alors là, nouveau problème, c'est que là, on n'avait rien prévu pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Non, là, on avait tout expliqué, tout bien préparé pour expliquer que ça va diminuer, mais le débat était sur la vitesse de diminution. Et là, non, vous avez tous faux, ça accélère. Là, petit problème. Et on a envoyé pour ça justement un petit satellite Euclide qui est chargé d'étudier ce qu'il s'est passé il y a 6 milliards d'années, parce qu'apparemment, l'accélération a débuté il y a 6 milliards d'années.
D'accord. Alors donc, il va prendre une photo de cet instant.
Alors, il va étudier ce moment-là dans l'univers pour voir. Qu'est-ce qui se passe réellement? Il va pas trouver la nature de ce qui donne l'expansion, de ce qui fait l'accélération de l'expansion. Mais en tout cas, il va essayer de contraindre les modèles pour qu'on puisse ensuite faire des expériences spécifiques sur tel type de problème. Donc, on a envoyé le satellite Euclide. Dernière découverte aussi, toute récente du télescope James Webb. Alors lui, il étudie très loin dans l'univers. Il a une vision infrarouge qui permet de remonter dans le temps. Parce que les galaxies, quand je vous dis qu'elles s'enfuient de plus en plus rapidement, il y a un problème, c'est qu'elles rougissent. En tout cas, elles changent de couleur. C'est comme l'ambulance. Quand elle s'éloigne de vous, le son est beaucoup plus grave que quand elle s'approche de vous. C'est l'effet Doppler-Fizeau. Cet effet Doppler-Fizeau-là s'applique à toutes les ondes électromagnétiques, que ce soit pour le son, donc là c'est nos oreilles, on entend bien la différence de ton dans les sirènes. Mais pour la lumière, c'est pareil. C'est-à-dire que une voiture blanche qui s'approche de vous, en fait, elle vous paraît bleue. Et quand elle s'éloigne de vous, elle vous paraît rouge. Voilà. Donc c'est exactement la même chose. Donc là, j'exagère un petit peu quand même,
c'est que
l'œil n'est pas suffisamment sensible pour voir la différence de couleur à ce point, et surtout la différence de vitesse de la voiture, qu'elle s'approche ou qu'elle s'éloigne, on va dire la couleur, elle reste blanche. Mais par contre, dans l'univers, avec les vitesses dont je vous parle, là je vous parle à 3 millions d'années-lumière, c'est déjà à 100 km par seconde. Ça fait vite, là, hein. C'est plus qu'une voiture sur l'autoroute. Donc on imagine bien que la voiture ne peut pas changer de couleur. Mais pour les galaxies, ça marche très bien. Une galaxie qui est au fond de l'univers, mais qui s'éloigne à des vitesses folles, mais elle change de couleur. Tout est dans le rouge. Et c'est tellement dans le rouge que ça passe dans l'infrarouge. C'est-à-dire qu'avec nos télescopes à nous,
on les voit pas.
C'est même plus visible.
Oui, bien
c'est
sûr.
Plus dans la lumière visible. Donc il faut élaborer des instruments qui soient capables d'observer dans les bonnes longueurs d'onde, sinon vous voyez plus rien au bout d'un certain moment. Ça va trop vite. La couleur est passée dans des couleurs invisibles. Donc le télescope James Webb, il va dans l'infrarouge assez lointain. Et donc lui, il les voit, ces galaxies-là, qui vont très très vite. Et des galaxies qui vont très vite parce qu'elles sont très loin. Et donc il a fait une découverte d'une galaxie, ce qui était juste une toute petite tachouille sur les photos du télescope Hubble, eh ben sur les photos du télescope James Webb, c'est devenu une structure bien plus élaborée. Enfin, on voit des détails à cette distance-là et à cet âge-là de l'univers. C'est une structure qui est apparue il y a seulement 510 millions d'années après le Big Bang. Alors on est quand même, on est remonté assez loin.
Voilà, oui.
Il doit pouvoir faire mieux, mais pour l'instant, on a trouvé celle-là. Et c'est une structure qui est bien plus évoluée que toutes les galaxies du même âge. Donc là déjà, ça étonne. On y trouve aussi des étoiles qui sont bien plus vieilles que ce qu'on pensait. Alors quand on parle d'étoiles vieilles, on parle d'étoiles qui ont une métallicité supérieure. C'est-à-dire des étoiles qui se sont formées à partir de générations précédentes d'étoiles. Et donc, il y a de plus en plus de métaux un peu plus lourds. Et donc, la métallicité des étoiles est plus importante que ce qu'on pensait.
C'est bizarre. Ça
veut dire que ce sont des générations d'étoiles qui sont déjà assez vieilles. Les étoiles vieilles, il y a seulement 510 millions d'années après le Big Bang.
Donc, ça veut dire que l'âge de l'univers doit être reculé encore, la naissance de l'univers.
Ça peut être une hypothèse.
Ça peut être une hypothèse.
Mais on n'en sait rien, en fait. Le problème, c'est qu'on n'en sait rien. Cette galaxie-là, en fait, c'est une... On a observé une galaxie avec deux noyaux. C'est-à-dire que ce sont déjà des galaxies en interaction. Il y a seulement 510 millions d'années après le Big Bang. Donc, comme vous le disiez, bah, soit l'univers est bien plus âgé que ce qu'on pensait. Oui, mais là, il va falloir revoir un petit peu la théorie. Soit il y a d'autres explications possibles.
Mais de toute façon, on en saura un peu plus en utilisant des outils d'observation qui se rapprocheront du moment.
Alors, il faudra aller plus loin, mais déjà là, rien qu'en observant cette galaxie-là, cette structure-là, avec le télescope James Webb, à seulement 510 millions d'années après le Big Bang, on ne s'explique pas à quelle vitesse elle a pu se former, cette structure-là. Il a fallu que ça aille beaucoup plus vite que ce qu'on ne pensait.
Je vais résumer, si vous me permettez, ce que vous venez de nous dire. C'est grosso modo que, on a découvert à cette période-là, des étoiles qui étaient déjà issues d'une pépinière d'étoiles.
C'est ça.
Voilà.
Des étoiles qui se sont formées à partir d'autres générations précédentes.
Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est vraiment très proche du supposé Big Bang.
Bah, 510 millions d'années après le Big Bang, ça fait pas beaucoup de place pour laisser plusieurs générations.
Voilà.
À moins que ce soit des étoiles très massives. On sait que les étoiles très 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 massives, le type O, ça ne dure que quelques millions d'années. Donc 510 millions d'années, on peut faire quelques générations quand même. Mais de là à former des galaxies qui sont déjà en interaction. Donc des collisions de galaxies, on sait que ça existe, mais si tôt que ça dans l'histoire de l'univers, c'est ça qui pose problème aussi. Donc les observations, je reviens à mes acteurs là dans l'évolution d'une théorie, on a des astronomes là, des observateurs qui observent des phénomènes que les théoriciens pour l'instant peinent à expliquer parce que leur théorie ne nous donne pas assez de temps pour expliquer ce que l'on observe. À moins que, finalement, ce soit la théorie qui soit pas la bonne. Et on en est peut-être là. On en est peut-être encore, comme finalement, avec Ptolémée, avec Copernic.
L'héliocentrisme
ou le géocentrisme.
Le géocentrisme.
Pour les partisans du géocentrisme, la Terre est au centre de l'univers. Et la Terre est au centre du système solaire. Il a fallu complexifier le modèle pour expliquer certaines observations. Lorsque la Terre, on sait que la Terre tourne autour du Soleil. Elle tourne plus vite autour du Soleil que les planètes plus lointaines. Lorsque la Terre, on va dire, tourne autour du Soleil, elle arrive, en gros, entre guillemets, elle double les autres planètes, parce qu'elle tourne plus vite, elle finit par les doubler. et en les doublant dans le ciel, on a l'impression que les planètes que l'on double reculent parmi les étoiles. Donc, ça fait une boucle de rétrogradation. On appelle ça comme ça, bah, c'est la Terre qui va plus vite. Alors, si je vous double, j'ai l'impression que c'est vous qui reculez. Et après, on reprend la marche en avant. Ces boucles de rétrogradation-là, dans le système où c'est la Terre qui est au centre du système solaire, c'est pas facile de les expliquer. Il a fallu complexifier le modèle. Donc, on avait des orbites très bizarres pour expliquer tout ce que l'on observait et des choses qui disparaissent d'un seul coup si on accepte que la Terre tourne autour du Soleil et on met le Soleil au centre. Ça simplifie le modèle. Mais faut l'accepter que ce soit plus la Terre au centre du système solaire.
Mais je me rappelle de différentes émissions, vous nous avez dit, en science, c'est l'hypothèse la plus simple qu'il faut privilégier.
C'est le rasoir d'Occam. C'est ça, la bonne explication, faut accepter ça. Donc c'est toujours l'hypothèse la plus simple, la meilleure. Pas forcément, hein, mais on va dire qu'il faut privilégier.
Disons que ça aide.
Ça aide déjà, mais faut pouvoir l'accepter. Eh bien là, on en est peut-être au même point. On arrive à des absurdités, on va dire des incohérences. Cette vitesse d'expansion de l'univers qu'on n'arrive pas à expliquer avec différentes méthodes. Cette accélération de l'expansion, encore pire. Et des structures dans l'univers très jeunes qui pourtant paraissent très vieilles. Et là, on n'arrive pas à l'expliquer non plus. Et l'inflation qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, on a des expériences qui sont menées pour essayer d'étudier ces différents moments dans l'univers, finalement, depuis le début jusqu'au milieu avec l'accélération, la formation de structures, il faut leur laisser le temps de se former à ces structures élaborées, finalement. Eh bien, on n'a peut-être pas la bonne hypothèse. Alors, certains émettent une sacrée hypothèse. Nous vivons dans un multivers.
Ah, nous y voilà.
Alors, en quoi cette hypothèse-là permettrait d'expliquer plein de choses? Alors, je vais vous le dire. Alors, le multivers, c'est quoi? On imagine, notre bulle d'univers est en expansion. Donc, nous vivons dans une bulle. Et évidemment, il y a plein d'autres bulles dans l'univers qui n'ont pas toutes la même taille parce qu'elles ne se sont pas formées toutes au même moment. Et chacune des bulles a un instant Big Bang, on va dire. Et hop, ces bulles grossissent là. Et en grossissant, c'est comme vous soufflez dans un ballon de baudruche, ça grossit, et puis ça grossit de moins en moins vite, parce que avec le volume d'air que vous y mettez, forcément la taille va continuer à s'augmenter, mais de moins en moins vite, parce que votre débit, lui, est à peu près constant, on va dire. Donc on imagine, chacun gonfle son ballon, comme ça. Ce sont des bulles. Donc on est dans une mousse, c'est de la mousse de l'univers, chacun sa bulle. Et dans cette hypothèse-là, par exemple, notre bulle d'univers peut englober des bulles qui seraient à côté, des bulles voisines. On les absorbe, mais ça fait augmenter notre volume, ça. C'est ça qui pourrait expliquer, par exemple, l'accélération de l'expansion. On est en train d'avaler des univers voisins, les plus proches. Donc, d'un seul coup, notre volume augmente, mais non pas dû à son expansion à lui, mais simplement en absorbant les volumes des voisines, des bulles voisines.
Ça augmente. Ça me donne d'autres idées, mais c'est pas le sujet de l'émission.
Ça augmente. Et ça expliquerait en plus l'inflation. Vous vous rappelez cette évolution, ce volume qui a été multiplié par un nombre fantastique en un temps ridiculement court. C'est peut-être nous qui nous sommes fait avaler au tout début de notre formation. Nous étions une toute petite bulle et c'est un autre univers qui nous a avalé. Évidemment que notre volume est devenu infiniment grand en un seul coup parce qu'on a été avalé par un univers qui était déjà bien plus évolué.
C'est peut-être
que dans cet univers bien plus évolué, il y avait déjà des galaxies qui étaient suffisamment évoluées pour expliquer ce qu'on observe.
Et j'irais même plus loin. Peut-être que dans ces galaxies, il y avait des civilisations intelligentes et qu'on a rencontrées.
Mais on a déjà du mal à trouver sur Terre.
Non, mais c'est une boutade.
C'est possible. Alors après, il y a d'autres problèmes, parce que certains disent que les multivers, pourquoi pas. Mais dans chacun de ces multivers, ils ont leur propre lot de constantes. C'est-à-dire la vitesse de la lumière, la charge de l'électron, enfin des choses comme ça. Donc, lorsqu'on avale un univers qui n'a pas les mêmes constantes, là, je sais pas trop ce qui peut se passer. Donc là, je lance une bouteille à la mer, là, je n'aurai pas d'explication. Moi, ça me paraît bizarre. Cette explication-là me paraît bizarre. Peut-être d'autres pourront l'expliquer. Moi, je n'ai pas la réponse à ce questionnement-là. Mais donc, avec les multivers, on peut dire que on arriverait peut-être, en tout cas, à mieux expliquer ce qu'on observe plutôt qu'avec les théories qu'on essaye d'échafauder et qu'on essaye de modifier, on va dire, à certains endroits, changer les paramètres pour coller aux observations. Évidemment, c'est comme ça qu'on fait évoluer une théorie. On essaye de mieux mesurer les paramètres pour coller aux observations. Mais on a du mal parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. C'est qu'avec ce que l'on connaît actuellement de la cosmologie, on a du mal à tout expliquer. Alors, cette hypothèse du multivers, peut-être.
Peut-être.
Peut-être c'est la bonne, peut-être pas. Peut-être pas. Mais en tout cas, je vous invite à ne pas la rejeter simplement parce que ça vous plaît pas.
Bon, bah voilà, bah, on a bien noté. Merci Lionel. Et on aura l'occasion de faire une nouvelle émission sur sur l'évolution des observations de ce petit satellite qui s'appelle
Euclide.
Euclide, voilà. Ça rappellera de vieux souvenirs en géométrie. À bientôt.